Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le terrain le sportif.
Il n'y a personne de safe ici dans la chambre. Parce que c'est pas un camp de vacances ici.
Quand tu viens à Montréal jouer devant 700, on te dit que tu viens jouer à l'Université de Montréal. You're gonna compete with the best against the best tous les jours.
Gagner beaucoup des trophées. Merci à Ibra Kadabra.
Moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
So, I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plug in my ear.
Le terrain le sportif. Terrain. Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à l'émission Le terrain sportif tous les lundis matins 10h30 à midi sur les ondes de CSM, le 89.3 FM, la radio de l'Université de Montréal, la plus grande radio universitaire francophone au monde, le 89.3 FM bien entendu, et en rediffusion les lundis soirs 20h-21h30 sur les ondes de CFAC, le 89.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Belsta est avec vous aujourd'hui pour cette édition. Eh bien, du lundi 12 août 2024, les sessions d'université, du cégep, le secondaire, les écoles, tout ça, là, ça va recommencer bientôt. Le Canadien de Montréal également, sauf que, eh bien, le Canadien de Montréal, je n'en parle jamais dans cette émission-là. Peut-être un jour, s'ils gagnent la Coupe Stanley, on mentionnera ça, mais c'est tout, puisque les Canadiens de Montréal ont assez de couverture médiatique. Ils n'ont pas besoin, bien entendu, de mon aide pour ce faire. Donc aujourd'hui, on va parler un peu des Olympiques, on va parler un peu de sport universitaire qui s'en vient, un peu de soccer européen, quelques petites actualités par ici, par là. Mais on va surtout parler du vendredi 9 août 2024 que je viens de baptiser aujourd'hui même le terrible vendredi. On pourrait même le rebaptiser encore une fois, vendredi terrible. Combien de fois est-ce que ça arrive que nos équipes montréalaises jouent un match à élimination directe? Un match, tu le gagnes, t'es in, tu le perds, t'es out. Canadien de Montréal, ça n'existe pas parce que c'est des 4-7. Donc, quoique, si on est rendu au match 7, on pourrait dire que ça va dans ce sens-là, mais tu peux t'en permettre d'en perdre de temps en temps dans une série de 7 matchs. Si ça va se cassette, bien entendu. Les Alouettes, oui. Le CF Montréal, qui joue dans la MLS, qui joue, je crois, environ 34 matchs par année de championnat, à peu près, plus championnat canadien, plus la Leagues Cup. La très grande majorité des matchs que joue le CF Montréal ne sont pas des matchs à élimination directe, parce que même le championnat canadien, mis à part la finale, si je ne m'abuse, c'est des matchs aller-retour. Et donc, il n'en joue pas beaucoup dans une saison. Et l'Alliance de Montréal, qui joue 20 matchs par saison, 10 à domicile, 10 à l'extérieur, eh bien, sur ces 20 matchs-là, ce n'est pas des matchs à élimination directe. Dans le meilleur des cas pour l'Alliance, ils peuvent jouer 2 matchs ou 3 matchs à élimination directe dans une saison. Et pourquoi je l'appelle vendredi terrible, ce 9 août 2024, parce que le 9 août 2024, le CF Montréal se déplaçait du côté de Philadelphie, qui est une ville dans l'État de Pennsylvanie, pour jouer la Leagues Cup et pour peut-être espérer être en huitième de finale de cette compétition qui comporte beaucoup de matchs là à élimination directe. Et bien, du côté de Philadelphie, le CF Montréal a perdu par 2-0 contre le Philadelphia Union, la ville de Rocky, par Ty Baribo, numéro 28, 2 buts, et voilà, à la 45e minute, dans les arrêts de jeu, en fait, de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps, les 2 buts ont été marqués là. Donc, le CF Montréal, encore une fois, match à élimination directe, eh bien, ils les perdent. Et là, on s'est fait sortir du championnat canadien par Forge, on se fait sortir de la Leagues Cup par Philadelphia, par le Union, c'est pas non plus catastrophique parce que c'est une bonne équipe Philadelphie en plus chez eux, mais ça reste que j'aimerais ça voir le CF Montréal nous apporter des fois des petits trophées, ou du moins aller plus loin dans ces tournois-là. Quand on regarde les équipes qui sont qualifiées, hein, Mazatlán du Mexique, on s'entend, là, c'est pas Manchester United, New York City, qui d'autre? Houston s'est qualifié, Saint-Louis, Colorado, on parle pas du FC Barcelone de Pep Guardiola, là. On parle d'équipes, bref, qui sont quand même potables. Et le CF Montréal est quand même une équipe correcte. Donc, ils auraient pu faire un parcours peut-être un peu plus correct que ce qu'ils ont fait. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est le minimum. C'est le minimum, c'est le minimum. Tu perds 4-1 contre Orlando dans ton premier match. Tu bats une des pires équipes du Mexique difficilement chez 3-3-2. Et puis là, ça fait en sorte qu'à cause de ça, ben, tu ne peux pas recevoir un match chez toi à domicile. Donc, tu dois te déplacer du côté de Philadelphia Union. Donc, on va en parler en détail de ce match-là plus tard. Et surtout, le spotlight cette semaine au terrain sportif, eh bien, on va parler de l'Alliance de Montréal. Parce que l'Alliance, sa saison est terminée, malheureusement. L'Alliance de Montréal jouait le 9 août, vendredi, contre Niagara River Lions. Niagara River Lions, c'est une des deux meilleures équipes de la Ligue avec les Vancouver Bandits. Et les deux équipes étaient en demi-finale. Et puis l'Alliance de Montréal, comme dans beaucoup de ses matchs cette saison, c'est un match qu'ils étaient très près de gagner. Et malheureusement, ils l'ont perdu. Contre une équipe, les Niagara River Lions, qui comporte un ancien joueur formé ici, vieille de Montréal, Nathan Caillot, qui a connu un bon match avec 15 points, le deuxième meilleur pointeur de son équipe, derrière Khalil Ahmad, qui en a 31. Donc cette équipe des Niagara River Lions, ils ont joué 4 fois depuis leur histoire en CBL. Et les 4 fois, ils ont battu l'Alliance de Montréal. Du moins, c'est les statistiques que j'ai ici là, sur le site de sofascore.com. 78-75, ça c'était vendredi. 83-77, 97-95 et 94-90. Donc, l'Alliance de Montréal a de la misère au calvaire contre les Niagara River Lions, malheureusement. Et on va en parler de ce match-là en détail. On va parler de l'ambiance, on va parler de tout ça. On a des entrevues d'après-match aussi, hein, les entraîneurs-chefs, Derek Alston, également notre ami, Mr. Radzo, l'entraîneur des Niagara River Lions, qui a montré beaucoup d'humilité dans sa conférence de presse d'avant-match et d'ailleurs d'après-match. Donc on le remercie pour cette humilité. Mais malheureusement, comme on dit en bon français, it was not meant to be. Maintenant, je veux parler des lauréats des prix de la CBL 2024, la Canadian Elite Basketball League, la Elite Elite canadienne de basketball, la LECB si vous préférez, hein, bien entendu. Ça se passait du côté d'un hôtel de Montréal, je crois, le Sheraton, c'était mercredi dernier, le 7 août. Je ne pouvais pas y aller parce que j'avais un match de soccer, donc j'ai décidé de prioriser cela. Étant donné, vous l'aurez compris, que ma passion pour les sports et les accréditations, l'émission de radio, tout ça, ça vient de gaieté de cœur, par passion, par volontariat. Il n'y a pas de rémunération, donc je n'ai pas d'obligation. En fait, je ne suis pas un employé d'une radio ou un employé d'une organisation. Et donc, bon, je choisis un peu les événements auxquels j'assiste. Bien que j'avais assisté au match à la conférence de presse des 4 entraîneurs et du commissaire de la Ligue, M. Montréal. Et il y a des joueurs qui sont fait honorer lors de cette soirée-là, du 8 août. À l'hôtel, et le 7 août, pardon, à l'hôtel de Sheraton du côté de Montréal. Et apparemment qu'il y avait de la bonne nourriture, de la bonne bouffe. Hein, j'aurais aimé ça, il était là pour ça également. Mais bon, ça c'était pas possible. Donc, qui a gagné quoi? Qui a été récompensé? Eh bien, lauréat des prix de la LECB, la CBL en 2024. Joueur le plus utile, ce qu'on appelle en bon français le MVP, Tazé Moore. Eh bien, à sa première saison dans la des Bandits de Vancouver, j'ai oublié de spécifier. À sa première saison dans la Ligue, Moore a contribué de façon importante dans de nombreuses catégories statistiques pour les bandits, Vancouver Bandits. Lui qui a dominé la Ligue pour la moyenne de passes décisives par match avec 7.3, en plus de se classer 3e au chapitre des rebonds 8.1, 4e pour les vols 1.6 et 10e pour les points 17.6. Ses 124 passes décisives représentent le 2e plus haut total en une saison dans l'histoire de la Ligue, et il est devenu le premier joueur à récolter 2 triple-doubles, donc triple-double en français, au cours de la même saison régulière. Le 13 juin, le garde de 6 pieds 5 pouces a réussi le premier triple-double de l'histoire des bandits dans le cadre d'une soirée historique au cours de laquelle il a marqué 35 points, un record de franchise, tout en rajoutant 16 rebonds, et on se passe dans une victoire contre Winnipeg. Donc félicitations à Taz et Moore, d'ailleurs, qu'on a eu en entrevue d'après-match du côté de l'Auditorium de Verdun, là, après la, parce qu'ils sont qualifiés, évidemment. Ils ont été en finale, ils seront en finale, puis ils l'ont été, ça se passait hier. Vous savez que c'est une émission préenregistrée, donc ça se passe hier, pareil. On va vous donner quand même les résultats dans quelques instants. Taz et Moore, il vient des États-Unis, du Tennessee, particulièrement dans la ville de Memphis, Tennessee. Le joueur canadien de l'année, c'est Kobe McEwen des Bandits de Vancouver. L'entraîneur de l'année, Kyle Julius de la même équipe de Vancouver. Donc, beaucoup d'honneur pour cette équipe de Vancouver qui a connu une très belle saison avec 14 victoires, 6 défaites en temps réglementaire. Le 6e joueur de l'année, Aaron Rye des River Lions de Niagara. Le joueur en développement de l'année, Simon Hildebrandt des Sea Bears de Winnipeg. Lloyd Pandy, c'est le joueur défensif de l'année avec les Black Jacks d'Ottawa. Le joueur clutch de l'année, Tevin Brown d'Ottawa et Stephen Smith du Calgary Surge. Et le prix de la reconnaissance des officiels Fox 40, c'est Vernon Bovell. Donc voilà pour les honneurs individuels de cette année. Donc malheureusement pour les lauréats, aucun joueur de l'Alliance de Montréal qui n'a pas été représenté. D'ailleurs, je crois que les joueurs de la Saskatchewan ne sont pas là-dedans également. Et aucun joueur de Edmonton également. Donc beaucoup de joueurs de Vancouver, un peu de Niagara, de Winnipeg, deux d'Ottawa et un de Calgary. Tous les gagnants des prix de la LECB et la LECB recevront une bague personnalisée de Justin's, J-O-S-T-E-N-S, pardon, le fournisseur officiel des prix et des bagues de la LECB, ainsi qu'un cadeau spécial de la part de Foot Locker, partenaire de la Ligue. Donc voilà. Ces deux joueurs, bien entendu, en jouant dans la LECB, je crois que le salaire maximal par match est environ de 1 500 $. Il y a des primes si tu fais les séries éliminatoires, si tu gagnes, etc., etc., etc. Donc, c'est des joueurs qui ne gagnent pas là, des salaires de LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony à l'époque, Cristiano Ronaldo. Là. C'est des joueurs qui vivent du basketball, oui, mais ce n'est pas des millionnaires. Donc, tout prix sera bienvenu pour ces athlètes. Également, première équipe d'étoiles de la Ligue, Taz et Moore de Vancouver, Justin Wright Foreman de Winnipeg, Cat Barber de Scarborough, Khalil Ahmad de River Lions de Niagara et Nick Ward des Bandits de Vancouver. La deuxième équipe d'étoiles de la Ligue, Javon Blair de Niagara, McEwen de Vancouver, Allen de Saskatchewan, Jalen Harris de Saskatchewan et Chris Smith de l'Alliance de Montréal. Et l'équipe d'étoiles canadienne, donc les joueurs canadiens de la Ligue, Javon Blair de Niagara, McEwen de Vancouver, Miller Moore de Calgary, Mathieu Kemba de Calgary et Brody Clark des Stingers d'Edmonton. Donc voilà. Et à propos de la Ligue là, canadienne, juste pour vous donner quelques petites informations, c'est une ligue qui a été créée par des Canadiens pour des Canadiens avec la mission de développer des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants sportifs et des arbitres canadiens. La Ligue compte le pourcentage le plus élevé de joueurs canadiens de toutes les ligues professionnelles du pays. Ces formations étant composées à 75% de Canadiens et comptant un nombre record de 10 joueurs possédant une expérience de la NBA dans leur rang en 2024. Les joueurs viennent également de la NBA J-League, qui est la ligue un peu d'été de la NBA, des meilleures ligues professionnelles internationales, du programme de l'équipe nationale canadienne, programme NCAA ainsi que U-Sport. 16 joueurs ont signé des contrats de la NBA après une saison de la Ligue élite canadienne de basketball et de nombreux joueurs de cette même ligue participent chaque année à des camps d'entraînement de la NBA J League. La saison de la LECB se déroule de mai au mois d'août. Les matchs sont diffusés sur CBL Plus, une belle plateforme d'ailleurs. Le site internet de la CBL est très bien fait, là. Allez voir ça, cebl.ca. Et les matchs sont également diffusés sur RDS, TSN, TSN Plus, Game Plus, etc., etc., etc. Donc, c'est une très belle ligue et je tiens à remercier, avant là, de faire le résumé de ce qui s'est passé le week-end dernier, je tiens à remercier les gens de cette ligue-là. Je trouve que c'est bien organisé, on est bien accueillis du côté des médias à Montréal, du moins, et même j'ai déjà été à Ottawa. Zachary fait une bonne job, s'il nous écoute, on le salue. Les entraîneurs-chefs de l'Alliance, généralement, sont très accessibles. Le GM également, là, Joel Anthony, très gentil. Madame Larouche, qu'on a eu en entrevue deux fois. Donc, Madame Larouche s'en va, c'est une lourde perte, mais l'Alliance reste. Et on va continuer à suivre cette équipe-là, parce que je vous le dis, j'ai fait toutes les équipes sportives à Montréal, je les ai faites. J'ai fait le basket, j'ai fait le Canadien, j'ai fait le CF Montréal. L'Alliance est particulier parce que ça a une très bonne ambiance et c'est familial, c'est convivial. T'es près de l'action, il y a du stationnement, c'est pas cher, c'est vraiment génial. Il y a des choses à améliorer, bien sûr, là, côté de l'Alliance de Montréal, on va pas se mentir. Notamment, le son est extrêmement fort, donc ça fait un peu mal aux oreilles. Surtout quand t'es là pour deux matchs un vendredi soir puis t'as déjà mal à la tête à l'avance. Puis la nourriture, c'est pas top. Mais à part ça, on peut dire que franchement, chapeau bas et félicitations à l'Alliance de Montréal pour qu'est-ce que vous faites pour les fans de basketball à Montréal. Parce qu'il y a des gens qui y vont. Et contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, les foules sont vraiment très diverses. Il y a de toutes origines, de tous âges, de tout niveau social, de tout style différent. C'est vraiment Montréal qui se retrouve là-dedans. Et on ne peut pas dire ça de chaque équipe sportive à Montréal, désolé de le dire, là. Il y a des équipes parce que c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus homogène, là. C'est vraiment hétérogène, puis on a vraiment le reflet de la ville de Montréal quand on va à l'Alliance de Montréal, de par la diversité qu'on retrouve à l'Auditorium de Verdun. Et moi, j'adore ça. Puis j'adore aussi le fait que ça soit géré par des personnes qui viennent de la ville. Annie Larouche, elle a grandi toute sa vie du côté de Montréal. C'est une vraie Montréalaise à 100%. Si je ne m'abuse également, Joel Anthony, qui a joué avec LeBron James et Dwayne Wade. Certes, ça n'était pas là le meilleur joueur de tous les temps, mais il est quand même né à Montréal. Donc, c'est des gens qui viennent de Montréal et qui redonnent à Montréal. Et ça, c'est plaisant. Et malheureusement, les médias en parlent peu. Mais nous, ici, à CISM, on va en parler pendant un méchant bout. Puis on va en parler tellement pendant un méchant bout que là, on va faire une petite pause musicale pour vous présenter une nouveauté francophone de la semaine. Puis on revient après ceci, après nos 3-4 chansons. Vous écoutez le terrain sportif sur les ondes de CSM et de CFAQ. On parle de l'Alliance de Montréal. Bougez pas. De retour sur les ondes de CSM et de CFAQ, vous écoutez le terrain sportif. Donc, on vient d'entendre nos deux chansons nouveautés francophones. Il y en aura d'autres, mais c'est les deux premières chansons nouveautés francophones de la semaine. On va entendre Brisé de Marguerite Thiam et avant ça, bien entendu, une autre nouveauté francophone. C'était Ciao Paris de La Femme. Ça fait un bon petit lien avec les Jeux Olympiques qui viennent de se terminer. On va d'ailleurs en parler tout à l'heure vers la fin de l'émission, là, puisqu'on va vous donner le tableau final des médailles. Donc maintenant, on va parler en détail du match de l'Alliance de Montréal. Eh bien, c'était vendredi dernier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, malheureusement, l'Alliance, elle s'est inclinée le 9 août vendredi dernier par la marque de 75 à 78 dans un match très serré. Puis on peut vous le dire maintenant, on va arrêter les spoilers contre les champions de la Ligue, les Niagara River Lions. Les Niagara River Lions, c'est tout simplement l'équipe qui a gagné le plus de matchs dans l'histoire de la Ligue, mais ils n'avaient jamais remporté le titre. Puis ils l'ont fait de belle façon contre les Bandits de Vancouver là, hier par la marque de 87 à 95. Et pour y arriver, eh bien, ils ont battu l'Alliance de Montréal grâce à un très beau quatrième quart dans la victoire de 78-75. Et dans cette victoire-là, eh bien, Khalil Ahmad avec 31 points, Omari Moore avec 9, Nathan Kayo avec 15, TJ Lal avec 4, Elijah Lufil avec 4 également. À noter également Luden Love avec 8 points. Donc, ça s'est terminé pour l'Alliance de Montréal. Puis, il n'y a pas de match pour la troisième place. Là. C'est soit tu es champion ou soit tu rentres à la maison. Et ça a été le cas pour beaucoup des joueurs. Même si Ahmed Hill était là pour le match de la finale hier soir, il a regardé, il a aimé ce qu'il a vu parce qu'encore une fois, ça a été un très beau match. Un match serré, là, on va le mentionner. Et pour revenir à nos moutons pour l'Alliance de Montréal, vendredi, ce qui s'est passé, nos meilleurs pointeurs, eh bien, c'est Ahmed Hill avec 14, Chris Smith avec 11, Jordan Bolden avec 10, Guillaume Payen-Boucard avec 9. Et puis également, il y a eu Alain Louis avec 12 points, Bendou 4, Elijah Fiji 3 et Christian Worler avec 9 points. Il faut dire que l'entraîneur des Niagara River Lions, avant de jouer les matchs vendredi, c'est-à-dire la conférence de presse de milieu de semaine la semaine dernière, puis également après la victoire, il a beaucoup encensé l'Alliance de Montréal, puis il a dit là, que le Big Three de l'Alliance de Montréal, eh bien honnêtement, ce sont des joueurs qui sont pas loin de la NBA, et que c'est peut-être les meilleurs joueurs de toute la ligue en termes de Big Three, que Montréal, eh bien, est up there, comme il a dit, donc en ayant des très bons joueurs d'élite. Malheureusement, ça manque un peu de profondeur, l'Alliance de Montréal, quand on compare avec d'autres équipes. Puis là, il parlait de Chris Smith, Ahmed Hill et Jordan Bowden, qui ont fait une belle saison avec l'Alliance de Montréal. Il faut les mentionner, il faut les féliciter. Donc, ça a été un match serré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lors du premier quart, les River Lions ont pris les devants 16-11. Ensuite de ça, deuxième quart, 25-22 pour l'Alliance. 23-16 le troisième quart, un quart dominé complètement par l'Alliance de Montréal. Puis à la fin, bien, c'est ce qui a fait la différence avec les 9 points, là, la règle des 9 points. Et bien là, les Niagara River Lions se sont réveillés. Puis au quatrième quart, 24 points pour eux, contre 16 pour l'Alliance. Également dans ce match-là, 3500 spectateurs, tout simplement. Rien de moins pour l'Alliance, avec une foule survoltée, une des meilleures foules de toute l'année, je le répète. C'était le week-end du Championship qui était chez nous, à Montréal. Puis l'Alliance de Montréal, ils ont quand même fait honneur à la province, puis à la ville, puis surtout à leur équipe qui joue à l'Auditorium de Verdun. C'est important de mentionner que l'Alliance de Montréal s'est qualifiée directement en demi-finale, alors que ça a été une des pires équipes de la Ligue en termes de numéro, en termes de classement. Mais quand on regarde la saison de l'Alliance de Montréal, on se rend compte que beaucoup des matchs de cette équipe-là ont été perdus de très peu. Et ça a été le cas encore une fois. Beaucoup des matchs de l'Alliance de Montréal ont été perdus à la fin, des fois dans des manières assez étonnantes, assez étranges. Des fois, ça a été des défaites largement perdues, comme le premier match le 23 mai, 95-75 contre les Bandits. Après ça, on regarde ça le 25 mai, on perd par 6 points contre Saskatchewan Rattlers. Ça se passait du côté de la Saskatchewan, ce qui n'est pas facile. Après ça, on regarde ce qui se passe encore une fois. Bon, 81-77, encore un match serré contre les Edmonton Stingers. On gagne après ça contre Brampton. Après ça, on perd 87-86 contre Ottawa. On bat Ottawa après ça 104-89. On perd contre Niagara River Lions, qui est une équipe, là, c'est notre bête noire de la Ligue. On les a très rarement battus. Je crois qu'on les a jamais battus en 4 affrontements, selon les statistiques que j'ai vues auparavant. Après ça, 93-86 contre Scarborough. On perd par 6 points contre Brampton. Après ça, on perd encore une fois par 2 points contre Niagara. On perd là par 8 points contre Scarborough. Donc ça, c'est une défaite quand même assez cuisante. On perd par 3 points. Encore une fois contre Brampton, on perd par 1 point contre Ottawa, on bat Winnipeg, on perd par 6 points contre Niagara, on perd par 8 points contre Ottawa. Donc beaucoup de matchs là très serrés du côté de l'Alliance de Montréal, notamment le dernier de la saison, une défaite par 3 points. Donc est-ce que l'Alliance pouvait gagner? Oui. Est-ce qu'ils auraient dû gagner? Je ne sais pas, parce que les Niagara River Lions, c'est l'équipe championne. Puis honnêtement, ils nous ont offert du beau basketball. Et ce qui est intéressant à noter, là, c'est que les trois matchs qui se sont joués, dans le Championship Weekend du côté de la CBL, eh bien, ça a été trois matchs qui ont été extrêmement, mais bien extrêmement serrés. Ça a été des matchs qui ont été joués souvent lors de la dernière possession, parce que 89-87 pour Vancouver contre Calgary, ça s'est joué à la dernière possession. 78-75, comme je viens de le dire, pour les Niagara River Lions, ça s'est joué à la dernière possession. Et hier, Niagara 97, Vancouver Bandits 95, ça s'est joué à la dernière possession. Donc Mike Morelli, le commissaire de la Ligue, était là. Les gens ont aimé le show. Les gens sont venus en grand nombre, même si hier, lors de la finale, les spectateurs... On va pas se mentir, là, il n'y avait pas 3500 personnes dans l'auditorium de Verdun. Mais il n'y en avait quand même pas pire. Pour une finale d'une avec deux équipes là, qui sont quand même loin géographiquement de Montréal, là, Niagara, c'est quand même loin, là, c'est encore plus loin que Toronto. Puis Vancouver, ben, c'est la ville, en fait, c'est le plus loin possible qu'une équipe de la CBL puisse être. Puis il y a quand même eu 3031 spectateurs selon les chiffres officiels. Mais c'est vrai qu'il s'était très clairsemé là, dans les estrades. Donc, c'était pas plein. Mais en même temps, il y avait beaucoup de personnes là, à côté des tables VIP puis beaucoup de personnes debout. Mais je pense que dans le décompte officiel de 3031 spectateurs, il y en avait beaucoup là, qui étaient... c'est des gens qui avaient des billets de saison et puis qui n'étaient pas présents. Parlant de ça, avant de parler de ça, le billet de saison, juste qu'on a écouté l'entraîneur-chef pour sa dernière entrevue de l'année avec l'Alliance de Montréal, Mr. Derek Alston. Très bonne personne, très personne qui a beaucoup de choses à dire, qui dit ce qu'il y a à dire, qui ne met personne en dessous de l'autobus, comme on dit, mais qui fait toujours passer un message intéressant en disant que ben il y a certains joueurs, des fois, qui manquent un peu de... sans nommer personne, avec le sourire. Donc, c'est un joueur qui est très aimé. C'est un entraîneur, pardon, qui est très aimé de la part de ses joueurs. Puis on l'avait entendu l'année dernière, le Trevin Graham, ancien joueur de la NBA qui jouait avec l'Alliance l'année dernière, il avait dit clairement, s'il y a une chance pour que je revienne à Montréal, eh bien il faut que Derek Alston soit de retour. Et il l'a été. Il l'a été au grand plaisir des spectateurs et au grand plaisir des joueurs. C'est quelqu'un quand même de charismatique. Bon, l'Alliance, ils n'ont pas eu énormément d'entraîneurs, là, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup plus aimé cet entraîneur-là que le précédent de l'Alliance de Montréal. Je ne vais pas le nommer, là, c'est pas important. Donc, on l'écoute en entrevue, puis après ça, on vous parle de l'expérience que j'ai eue hier à l'auditorium de Verdun.
Do you think that this game represents, in a way, your season, meaning another close game? It could have gone as W section and went in the L section.
Yeah, I mean, it's been kind of a track record this year, you know, just kind of getting right there, right at the finish line, and not, you know, finishing the game. You know, like with any team, you know, you have your changes, your injuries, you know, guys not... that would leave it for summer league. You know, so everybody goes through it, so there's really no excuse to it. I thought we played well enough to win, and I think everybody who saw the game felt the same way. You know, just... I made a great shot as usual, which I hate, because I did not want that. I did not want him to beat me. They beat us. I thought I wanted somebody else to do it, but he shot a deep three, contested the right defense, so you live with that.
Voilà, donc c'était les mots de l'entraîneur-chef Derek Alston, l'entraîneur de l'Alliance de Montréal. Je ne lui ai pas posé, ni moi, ni aucun autre des journalistes, des médias. On lui a posé la question, voir s'il allait revenir. On n'est pas là-dedans, c'est pas la grosse ligue où est-ce qu'on pose n'importe quoi à n'importe qui. C'est quand même une ligue familiale, je trouve. Donc j'ai trouvé que c'était pas une bonne question à lui poser, et les autres journalistes également. Donc on ne sait pas s'il sera de retour l'année prochaine, et c'était sa deuxième année cette année qu'il était avec nous. L'année prochaine, ce sera une saison de 24 matchs au lieu de 20 matchs. Est-ce que si vous me demandez si je veux qu'il revienne, malgré le fait que les deux fois qu'on a été avec lui, on n'a jamais fait les séries éliminatoires par la grande porte, c'est-à-dire qu'on s'est qualifié là parce qu'on était qualifié, mais que si on n'était pas les hôtes du Championship Weekend, on n'aurait pas joué les playoffs. Je vous dirais, ma réponse, c'est tout simplement que oui, j'ai envie qu'il revienne, parce que quand même, comme je l'ai mentionné, beaucoup de matchs perdus par des résultats très serrés. Beaucoup de beaux jeux, des joueurs qui communiquent bien entre eux, un entraîneur qui sait ce qu'il veut faire avec cette équipe-là, des joueurs qui apprécient beaucoup leur entraîneur. Puis je ne vais pas mentir, c'est un entraîneur avec qui c'est agréable de parler en conférence de presse d'après-match. Il connaît son basket, il prend le temps de saluer les gens. Puis pour une ligue comme la CBL, je crois qu'il a tout à fait sa place et j'espère qu'il reviendra. Si vous me diriez, si vous me disiez si je voudrais qu'il soit coach pour les Lakers de Los Angeles ou pour, je sais pas moi, le Miami Heat ou les Celtics de Boston, je vous dirais non. Mais pour l'Alliance de Montréal, je veux qu'il soit de retour. Est-ce qu'il le sera? Eh bien, il va falloir attendre beaucoup de mois parce que vous savez, l'Alliance de Montréal, là, c'est fini. La CBL, c'est terminé. Il va y avoir peut-être quelques nouvelles dans les prochaines semaines, mais sinon, ça recommence grosso modo là, en avril là, pour les journées médias, je crois, pour avoir de l'information, aller voir les camps d'entraînement, écouter les conférences de presse des entraîneurs, etc. Puis, il faut dire que cette année, Derek Alston, il n'était pas au camp d'entraînement, puis il a manqué, je crois, les deux ou trois premiers matchs avec l'Alliance de Montréal, puisqu'il était entraîneur d'une équipe mexicaine, Los Mochis, qui ont participé aux séries éliminatoires. Donc, ça a été le staff, les assistants coach qui ont entraîné l'équipe. Donc, est-ce que s'il avait été là dès le début de la saison, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je ne sais pas. Puis, comme il a dit là, dans son entrevue d'après-match, la question que je lui ai posée, il a mentionné que il a dit qu'ils ont fait assez pour gagner. Et en effet, ils ont fait assez pour gagner, mais ils n'ont pas gagné parce que Niagara River Lions, c'est tout simplement l'équipe qui a gagné le plus de matchs dans l'histoire de la CBL, et ce, avant les séries éliminatoires. Donc, c'était pas une équipe à prendre à la légère. Là, c'est pas de la petite bière, comme on dit. Les Niagara River Lions, ils sont champions et ils ont battu l'Alliance de Montréal dans un match très serré. Si Montréal s'était qualifié hier soir, pour jouer contre les Vancouver Bandits qu'ils ont battu à leur dernier match. On ne sait pas, peut-être qu'on sera en train de faire une émission complètement différente, mais le fait est qu'ils ont perdu par 3 points en toute fin de match, là, avec, vous savez, la règle là, que j'ai déjà expliqué, les 9 points. Quand il reste 4 minutes ou moins à jouer, au premier temps d'arrêt, on prend le meilleur score des deux équipes, puis on rajoute 9 points, puis c'est le target score, puis l'équipe qui atteint ça en premier, ben c'est l'équipe qui gagne. Et puis là, voilà, comme de fait, les Niagara River Lions l'ont fait. Donc, je remercie beaucoup Derek Alston de nous avoir offert du bon spectacle quand même, puis d'avoir été présent pour les médias, parce que c'est pas tous les coachs qui sont comme ça. Il y en a qui sont snobs, il y en a qui sont pas là, il y en a qui sont gênés, il y en a que ça leur tente pas, il y en a qui répondent pendant 2 secondes. Lui, il prend le temps de donner des réponses longues, des réponses élaborées, des réponses développées. C'est quelqu'un qui est très intelligent et également qui s'exprime bien. Puis voilà, alors que honnêtement, beaucoup de choses d'entrevues qu'il fait, là, il n'y a pas grand monde qui parle de ça dans les médias. Je ne sais même pas si les grands journaux, les grandes chaînes de sport, tout ça, s'ils mentionnent ces entrevues-là dans leurs émissions. Puis je peux vous dire que honnêtement, sans vouloir manquer d'humilité ou quoi que ce soit, je suis peut-être une des très rares émissions qui va faire un compte-rendu là, du week-end de Championship, qui est en train de le faire d'ailleurs, et qui va faire un résumé de la saison de la CBL dans les prochaines minutes. Donc voilà, c'était Derek Alston. On le remercie pour ses services. Maintenant, on va y aller en musique, puis après ça, on revient avec un peu de détails du match d'hier de championnat, et puis on va faire le recap de la saison en CBL. Vous écoutez l'émission Le Terrain Sportif sur les ondes de CSM et de CFAQ, et cette semaine, eh bien, c'est le spécial CEBL, Canadian Elite Basketball League, la LECB. Donc voilà la Ligue élite canadienne de basketball. Donc parlant d'élite, on vient d'entendre 3 chansons, dont un classique des années... pas un classique, là, mais une chanson des années 90. On a commencé par les Hey Babies, Soyez Fiers, E40 and the Click, Why You Wanna Funk, c'est notre chanson anglophone de la semaine, et La Politesse de Mighty Killa, artiste des Caraïbes. La Politesse, il y a bien du monde qui aurait besoin de ça aujourd'hui, de nos jours, en 2024 et probablement en 2025 également. Donc maintenant, on va y aller, on va parler du Loup, on va parler des Niagara River Lions contre les Bandits de Vancouver. C'était tout simplement les deux meilleures équipes de la Ligue. Hein. Il n'y a pas d'aller chercher de midi à 14h. Là. C'était les deux meilleures équipes avec 14 victoires et 6 défaites chacune. dans un calendrier de 20 matchs. Et les Niagara River Lions l'ont emporté 87 à 95. Ça a commencé par une victoire au premier quart de 23 à 20 pour l'équipe de Niagara de l'Ontario. Ensuite, Vancouver s'est réveillé 26 points à 21 au deuxième quart. Donc, c'était pas mal égal en allant à la mi-temps. Après ça, troisième quart, totalement à l'avantage des River Lions avec 27 points contre 16. Puis après ça, comme beaucoup de fois dans ces matchs-là, les Niagara River Lions avaient une avance là, d'environ 10 points. Et puis ça l'a fondu jusqu'à 2 points puisqu'au quatrième quart, eh bien Vancouver l'a emporté 33-26. Mais au final, eh bien, c'est les Niagara River Lions qui gagnent le match 87 à 95 avec leur MVP Khalil Ahmad, donc le joueur le plus important de la finale pour l'équipe ontarienne, avec déjà c'est celui qui a joué le plus de minutes de toutes les deux équipes confondues, avec 39 minutes 5, c'est 23 points. Deux rebonds défensifs, quatre passes et puis trois steals, donc trois vols. Donc c'est quand même une très bonne performance pour la part du numéro 4 de Niagara. Également, on a 14 points pour Omari Moore, on en a 25 pour qui d'autre que Nathan Caillot, qu'on a en entrevue après ça, avec 25 points. Nathan Caillot, on le sait, là, il a passé les deux dernières saisons avec l'Alliance de Montréal. Donc, beaucoup de questions lui étaient destinées par rapport à ce que ça fait de jouer à Montréal devant ton public, blablabla. Mais lui, il a répondu, puis il a toujours été honnête en entrevue d'après-match. Là, c'est un joueur de Niagara, et puis l'Alliance de Montréal, eh bien, c'est une très belle équipe également. Mais l'Alliance, ils s'occupent de leurs joueurs, puis lui, ben, il fait ce qu'il a à faire avec Niagara River Lions. Et c'est ce qu'il a fait avec toute une performance de 25 points, 37 minutes et 12 secondes. Et puis également, là, 8 rebonds et 4 assists. Donc, ça a été une performance là, XXL pour Nathan Caillot. Également, TJ Lal avec 4 points. Arn Ray avec 15 points également et Luden Love avec 10 points dans la défaite. Et pour les autres joueurs là, des Bandits dans la défaite, eh bien, pour les joueurs des Bandits, pas les autres là, parce qu'ils sont tous dans la défaite, eh bien, McEwen avec 20 points, Mitch Creek, l'Australien, avec 26 points, Nick Ward avec 13 et 9 points pour Marcus Carr. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, là, une foule d'un peu moins de 3000 spectateurs. Et puis, ça a été un match enlevant, puis je peux vous dire que je l'ai partagé, je l'ai vu ce match-là depuis les lignes de côté. C'était la première fois de la saison que je faisais ça. C'est une drôle de coïncidence parce que c'était le match entre guillemets le plus important qu'on recevait à Montréal, puis c'était le seul match où Montréal ne jouait pas. Et je peux vous dire que ça les vaut. Le prix des billets là, que les gens payent pour être comme ça sur le court, juste à côté des joueurs. Là, ils sont même pas à un mètre parfois quand ils sont devant toi, là, dépendamment de où est-ce qu'ils attaquent. Ça vaut la peine. Puis j'ai parlé avec des gens, on va les écouter dans quelques instants. Une certaine Véronique, si je ne m'abuse, qui, elle, a des billets de saison. Puis elle, Madame Véronique Green, elle adore son expérience avec l'Alliance de Montréal. Les prix sont à peu près pour être sur le court, donc à côté de où est-ce que les joueurs jouent. En fait, là, t'es carrément dessus. C'est environ à peu près 100$ par match si tu comptes le nombre de matchs qu'il y a par saison à domicile, donc 10. Cette année, c'est un peu plus. Et donc, ça fait à peu près 1000-1200$ pour 10 matchs, ce qui est pas cher pour être juste comme ça devant l'action. On s'entend que ça, là, ce prix-là, environ 1200$ dans la NBA, tu n'as même pas un biais là, courtside dans certaines équipes, là, notamment à Los Angeles, Boston et compagnie. Ça vaut la peine de vous procurer des billets comme ça. Là, l'année prochaine, allez regarder ça. Puis moi, je ne suis pas payé par l'Alliance de Montréal ou quoi que ce soit. Je vous le dis, faites-le une fois dans votre vie. Achetez des billets pour être courtside, puis être juste à côté du panier, puis juste à côté des joueurs. Et c'est impressionnant. Je crois qu'il n'y a aucun sport qui est autant impressionnant que ça en étant proche comme ça de l'action. Parce que le soccer, oui, c'est le fun. C'est mon sport préféré. Sauf que le soccer, les joueurs ne vont pas être devant toi là, très souvent puisque le terrain est tellement gros, ça peut aller d'un côté que puis de l'autre. Alors qu'au basketball, eh bien, ils font la navette, ils font l'aller-retour là, pratiquement à chaque jeu. Et donc, tu les as en face de toi. C'est impressionnant le nombre de joueurs talentueux qu'il y a dans cette ligue-là. le nombre de capacités physiques, athlétiques de ces joueurs. Et donc, je remercie en toute humilité l'Alliance de Montréal pour m'avoir permis de vivre cette expérience-là, puis de m'avoir permis également de couvrir l'équipe pour une, je crois, deuxième ou troisième saison de suite, là, deuxième complète. Je crois deux saisons et demie à peu près là, pour l'Alliance de Montréal. Et c'est plaisant d'être là presque à chaque match, de poser des questions d'entrevue en conférence de presse, puis d'être pratiquement deux ou trois journalistes. Des fois, il y en a juste deux. Il y a très peu de personnes là, qui viennent poser des questions, et très peu de médias qui viennent voir l'Alliance de Montréal régulièrement. Et moi, je me sens privilégié de pouvoir le faire. Donc voilà, ça c'était pour la finale de la saison 2024 tout court. L'année prochaine, la saison sera augmentée à 24 parties au lieu de 20, donc ça fera 12 matchs à domicile et non pas 10. Et l'année prochaine, eh bien, finales, le Championship Weekend sera du côté du Manitoba, dans la ville de Winnipeg. Et après ça, on va peut-être en entendre parler dans les prochaines semaines, mais il semblerait qu'il va y avoir un changement en termes de comment se qualifier pour les séries éliminatoires, que cette formule-là, que l'équipe locale est automatiquement qualifiée pour les séries éliminatoires, il semblerait que peut-être que ça va disparaître. C'est ce que j'ai lu entre les lignes là, de la conférence de presse du commissaire Mike Morreale, qui l'a mentionné en milieu de semaine la semaine dernière. En même temps, il faut comprendre la ligue aussi. Là, c'est pas une ligue qui a des milliards et des milliards de dollars comme la NBA, la NHL, la Ligue des champions, l'UEFA, etc., etc. C'est une petite ligue. Donc, si on fait, par exemple, on fait la rotation des villes dans lesquelles il va y avoir des championnats, comme par exemple cette fin de semaine, si Montréal n'avait pas participé au match de demi-finale, puisque les deux sont la même journée, donc il y a des gens de Montréal qui sont venus plus tôt pour voir le premier match, je peux vous garantir qu'il y aurait eu beaucoup moins de monde que ça. Puis en plus, il pleuvait beaucoup, donc on a été chanceux d'avoir une belle foule comme ça. Donc tu fais un championship week-end, je ne sais pas moi, par exemple, à Saskatoon ou à Niagara, puis il n'y a personne, puis ces équipes-là ne sont pas qualifiées. Est-ce que ça va se remplir? Probablement pas. Et puis pour la Ligue, ils ont quand même besoin de revenus, puisque c'est pas une Ligue qui roule sur l'or, comme on dit. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. Maintenant, on va y aller avec le petit sommaire de la saison dans laquelle les Niagara River Lions ont été champions. Tout d'abord, au classement, eh bien, je l'ai déjà mentionné, dans l'Est, Niagara, première équipe avec 14 victoires, 6 défaites. Scarborough a terminé deuxième avec 12 victoires, 8 défaites. Ottawa, troisième, 9 victoires et 11 défaites. Brampton, quatrième avec 6 victoires et 14 défaites, tout comme l'Alliance de Montréal qui a terminé cinquième et dernière. Et dans la conférence de l'Ouest, Vancouver, première, 14 victoires, 6 défaites. Edmonton, deuxième, 13 victoires, 7 défaites. Calgary, troisième, 11 victoires, 9 défaites. Winnipeg, 9 et 11. Et Saskatchewan, eh bien, ils sont restés en Saskatchewan. Ils ne sont pas venus à Montréal puisqu'ils ont terminé dernier avec 6 victoires, 14 défaites. Les meilleurs de la Ligue, on va mettre ça en français pour pouvoir vous donner les bons termes. Donc en termes, les meilleurs pointeurs de la Ligue, c'est Mitch Creek de Vancouver avec 26,5 points en moyenne. Le deuxième, eh bien, c'est Khalil Ahmad, le MVP de cette année des séries avec 25,7. Les rebonds, le meilleur de la Ligue, eh bien, c'est notre Montréalais Jordan Bolden avec 11. Les passes décisives, Deng Adel d'Ottawa avec une moyenne de 9. Les blocs, Nick Ogunda de Scarborough avec 5. Les vols, Brody Clark avec 4. Les paniers gagnants, Khalil Ahmad avec 1 en moyenne par match. Les pourcentages de réussite, eh bien, Michael Nuga d'Edmonton avec 80%. 3 points réussis, 4,7 Corey Davis Jr. de Calgary. Les revirements, Donovan Williams avec 7 de Scarborough. Les fautes, 5 de Brody Clark de Edmonton. Et donc voilà, c'est pas mal ça pour les statistiques. On va pas toutes vous les donner, bien évidemment, là, parce que ça serait un peu trop long. On peut vous dire que le nombre de minutes jouées dans toute la saison, eh bien, c'est Ahmed Hill de notre Alliance de Montréal avec 632.5 minutes jouées. C'est celui qui a joué le plus de minutes dans toute la ligue, suivi là de Corey Davis Jr. de Calgary avec 628.8. L'autre après, là, c'est moins de 600, c'est Zach Copeland avec 591.9 minutes, tout simplement. Le nombre de points, celui qui a marqué le plus de points cette année, eh bien, c'est Teddy Allen de Saskatchewan avec 403. Ensuite, Winnipeg, Justin Wright Foreman avec 368. Javon Blair, 329. De Niagara River Lion, lui, il ne jouait pas pour ces finales-là. Je pense qu'il était blessé. Nick Ward des Bandits de Vancouver avec 327 points. Puis pour conclure avec les petites statistiques, eh bien, les joueurs qui ont marqué le plus de paniers de 3 points cette année, Zach Copeland avec 64, Kobe McEwen de Vancouver, les deux joueurs pour Vancouver, 54, Teddy Allen de Saskatchewan avec 53, tout comme Javon Blair des Niagara River Lions, et Ahmed Hill de notre Alliance de Montréal avec 50 paniers de 3 points réussis. Sur ce, on va écouter notre entrevue d'après-match avec Nathan Caillou, le Montréalais champion avec Niagara et l'entraîneur-chef des River Lions de Niagara, Victor Razzo. J'ai mentionné peut-être avant Joe Razzo, là, c'est pas Joe Razzo, c'est Victor Razzo.
Good evening, coach.
Hey, how you doing?
Thank you for doing this. Is it one of your best nights in your basketball career as a coach?
As a coach, undoubtedly. Undoubtedly the best night that I've ever had. This organization has been elite in the CBL, but we never had the validation of a championship. We have the most wins in CBL history. We have players who want to come back every year. We're able to get players like Nathan Kao to want to come play for us. Like, we're doing things right, but our home games are amazing. Like, we just needed this as an organization, and I'm just so, so happy for everybody else. Honestly, everybody else, because this is the validation that those people needed for the hard work that they've done. So, I'm happy.
Bonsoir, Nathan.
Bonsoir.
Félicitations pour ton titre. On va laisser Montréal de côté pour ces questions-là, mais
parfait.
Qu'est-ce que ça représente pour toi dans ta carrière de joueur de basketball de gagner ce titre?
Je veux remercier Dieu premièrement. C'est une opportunité incroyable de jouer ce sport à ce niveau. Puis, comme j'avais dit la dernière fois, de jouer dans ta ville natale en tant que professionnel, c'est extrêmement rare. À part si t'es à l'NBA et t'es un Américain, c'est extrêmement rare. Donc, d'avoir toute ma famille avec moi, de pouvoir célébrer, de gagner un match vraiment difficile contre une équipe qui est extrêmement talentueuse, c'est une bénédiction. Puis, je remercie Dieu pour ça.
Est-ce que c'est un des plus grands trophées que tu as gagné dans ta carrière?
C'est proche. C'est vraiment proche. On a gagné le Eitan ma dernière année au collège, puis ça faisait 5 ans que j'étais là avec des gars que j'étais là avec depuis 5 ans, mais c'est vraiment proche d'être avec une nouvelle équipe et qu'ils m'ont accepté dès le début, puis ils me connaissaient pas vraiment à part en tant qu'adversaire, de pouvoir développer une chimie comme ça puis de gagner d'une telle façon, c'est j'ai pas le mot.
Voilà, donc Victor Razzo qui a mentionné que c'était sans aucun doute bien sa meilleure soirée en carrière en tant qu'entraîneur-chef d'une équipe de basketball. Il a également mentionné par la suite que souvent il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas en lui, et il a même mentionné en blague que ben il leur dédie un peu cette victoire-là. Donc il faut le rappeler, là, ce ne sont pas des joueurs et des entraîneurs qui vont gagner leur vie dans la NBA en faisant des millions de dollars. Donc pour eux, gagner un trophée comme ça d'une ligue prestigieuse comme la CBL, qui est la meilleure ligue au Canada. Puis le Canada, c'est quand même un pays là, très développé en termes d'équipe sportive, en termes d'infrastructure. Eh bien, c'est tout un honneur pour lui d'avoir remporté ce beau trophée. Là, vous irez le voir là, sur Google, là, le trophée de la CEBL. C'est un très beau trophée. C'est un des plus beaux que j'ai vu avec sa couleur or, avec les feuilles d'érable. Je l'avais en anglais, là, maple, en tout cas. Les feuilles d'érable, tout ça, puis le ballon de basketball qui est en haut de ça complètement dans une sorte de panier. C'est un très beau trophée, puis Niagara River Lions et Victor Razzo méritent ça. Puis après ça, Nathan Caillou, bien, vous l'avez entendu en français, là, il remerciait le bon Dieu, puis il disait que c'était pas loin d'être le trophée le plus important de sa carrière qu'il a gagné. Je ne sais pas s'il en a gagné énormément, là, mais il en a gagné un, justement, le Atlantic 10 Men's Basketball Tournament. Et là, a gagné ça là, avec Richmond il y a de ça quelques années. Donc on le félicite et puis on espère qu'il sera de retour dans cette merveilleuse ligue-là. Et Victor Razzo a d'ailleurs mentionné là, que c'était probablement un des meilleurs Canadiens de toute la ligue, là, Nathan Caillot. Puis on l'a perdu du côté de l'Alliance de Montréal et on l'a laissé aller filer. Du côté de l'Ontario avec les River Lions, mais bon, peut-être qu'il y avait aussi une demande du joueur, je sais pas, là, je suis pas rentré dans les détails, mais c'est une grosse perte pour l'Alliance de Montréal, malheureusement. Donc voilà, pour terminer la boucle de l'Alliance, on va écouter Véronique Green, c'est une femme également, comme une autre qui va à tous les matchs de l'Alliance de Montréal, puis j'ai trouvé sa participation et son enthousiasme très intéressant puisqu'elle avait aucune équipe favori là, entre Vancouver puis les River Lions, malgré ce qu'elle a dit en entrevue là. Elle était contente dès qu'une équipe marquait un point, donc elle voulait juste voir du beau sport avec des athlètes puis du beau spectacle, et c'est ce qu'elle a eu. Puis on va avoir ses impressions là de la ligue puis surtout de l'Alliance de Montréal. On écoute ça puis on revient après ceci.
Donc, on est avec Véronique Green. Véronique, comment ça va ce soir?
Ça va super bien, merci. Et toi?
Ça va bien, merci. Donc, la saison de la CBL est officiellement terminée. Donc, tu es détentrice de billets de saison de l'Alliance, exact?
Exact!
Puis, qu'est-ce que ça te procure, être fan de l'Alliance de Montréal puis venir ici à chaque match? Comment est-ce que tu trouves ton expérience?
Honnêtement, je viens ici parce que mon garçon, il aime le basketball, fait que j'ai appris à aimer le sport à cause de lui. Fait que j'ai décidé d'acheter des billets, puis depuis ce temps-là, je suis en amour avec ce sport.
Puis qu'est-ce que t'aimes particulièrement des matchs de l'Alliance de Montréal?
Mais dans le fond, c'est l'ambiance. L'ambiance est géniale, puis le jeu est impeccable.
Excellent. Puis ce soir, Niagara est champion. Qu'est-ce que t'as pensé du match?
Honnêtement, c'était vraiment serré. Peu importe c'était, moi, je suis pas très Vancouver, mais ils ont travaillé fort. Mais c'est Niagara qui a remporté.
Parfait. Merci beaucoup. Puis est-ce qu'on va te revoir la saison prochaine?
Oui, bien sûr!
Merci, puis bonne soirée.
Merci beaucoup.
Donc, c'était Verna Green, évidemment, qui spectatrice et fanatique et membre qui a des billets de saison de l'Alliance de Montréal chaque année, qui revient pour encourager l'équipe, elle et sa famille. Puis elle a parlé également de quoi d'autre que l'ambiance, la chose la plus importante, ce qui fait la beauté de ce produit qu'est l'Alliance de Montréal et surtout de cette ligue qui est la Ligue élite canadienne de basketball. Donc on la remercie pour nous avoir accordé quelques minutes de son temps à la fin de ce merveilleux match remporté par les Niagara River Lions. Sur ce, on s'en va en musique puis on revient après ceci avec un tout petit peu d'Olympique et ça termine notre gros segment d'ailleurs de l'Alliance de Montréal. Vous écoutez l'émission Le Terrain sportif sur les ondes de CSM et de CFAQ, l'émission hebdomadaire qui parle de sports moins connus, moins médiatisés, plus intéressants et plus passionnants que beaucoup d'autres sur les ondes de CSM et de CFAQ tous les lundis matin 10h30 midi et en rediffusion sur les ondes de CFAQ lundi 20h 21h30 avec votre animateur Wissem Bensta. Donc les deux dernières chansons de l'émission, eh bien Amé Laouni avec sa chanson Démesuré et ensuite c'était En rond de June. Donc voilà maintenant l'Alliance de Montréal, la CBL c'est terminé, on va en reparler l'année prochaine au mois d'avril à moins qu'on ait des nouvelles là, d'expansion. Peut-être pour une ville de la capitale nationale, la ville de Québec, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas officiellement réponse concernant une équipe à Québec, mais on le sait, là, ça fait très longtemps que Québec attend ça, puis ça fait longtemps aussi que c'est dans les rumeurs, mais à l'heure actuelle, aucune réponse officielle quant à ça. Également, on va vous mentionner les champions précédents de la Ligue élite canadienne de basketball, puisque j'ai oublié de le faire. Donc, c'était la sixième année durant laquelle il y avait un champion. 2019, Saskatchewan l'a remporté contre Hamilton. 2020, Edmonton contre Fraser Valley Bandits. 2021, Edmonton encore une fois contre les Niagara River Lions. 2022, c'est Hamilton qui l'a emporté contre Scarborough. 2023, Scarborough l'a emporté contre Calgary. Et 2024, je l'ai répété 15 fois, Niagara River Lions contre les Vancouver Bandits. Vous avez vos champions de l'année 2024, c'est Niagara. Donc maintenant, on va y aller avec une petite nouvelle de la Leagues Cup. Je l'ai mentionné plus tôt, là, le CF Montréal s'est fait éliminer vendredi dernier avec deux buts de Ty Baribeau de la Leagues Cup. Juste pour vous mentionner qu'il y a des matchs ce soir et demain, c'est les huitièmes de finale. Donc les 16 meilleures équipes de la MLS et des États-Unis, du Mexique qui vont s'affronter. Donc Seattle, Pumas, et après ça, c'est demain, eh bien c'est Columbus, Miami, Tigres de Monterrey contre New York City, Los Angeles FC contre San Jose, Cincinnati, Philadelphie, Cruz Azul, Mazatlan, ça c'est deux équipes mexicaines, Toluca contre Colorado et Club America qui va jouer contre San Luis et le CF Montréal. Malheureusement, eh bien, ils vont regarder ces matchs-là à la télévision sur le téléviseur en couleur. S'ils vont bien le regarder, évidemment, là, puisqu'on s'en doute, là, le CF Montréal n'est plus dans cette très belle compétition. Puis Dieu sait que j'aurais aimé avoir un match au Stade Saputo pour pouvoir en parler avec vous, chers auditeurs, chères auditrices. Donc maintenant, pour terminer l'émission, on va faire le décompte des médailles des Jeux Olympiques. Il y a un total de 84 pays qui ont remporté des médailles. Et donc, je pense que c'est important de mentionner tous les pays parce qu'il y en a des moins connus. Il y a des très grosses surprises qui ont remporté des médailles. On va peut-être pas mentionner ceux qui en ont eu zéro. On va voir qu'est-ce que ça donne, mais on n'a pas non plus 15 heures qui nous restent. Donc, égalité en termes de médailles d'or avec 40 chacune, États-Unis et la Chine. Mais les États-Unis ont 126 médailles, la Chine en a 91. Troisième, Japon avec 20 médailles d'or. Quatrième, Australie, 18. Cinquième, France avec 16. 15 médailles d'or pour les Pays-Bas, 14 pour le Royaume-Uni, 13 pour la Corée du Sud, 12 pour l'Italie, 12 pour l'Allemagne, 10 la Nouvelle-Zélande, le Canada avec 9 médailles d'or, 27 au total, Ouzbékistan 8 médailles d'or, c'est énorme pour l'Ouzbékistan, un pays qui n'est pas très médiatisé, mais beaucoup de leurs médailles ont été là dans la lutte et puis les sports de combat comme la boxe et je crois le taekwondo. La Hongrie avec 6 médailles d'or, l'Espagne avec 5, la Suède avec 4, le Kenya avec 4, la Norvège avec 4, le Kenya qui est d'ailleurs le pays africain avec le plus de médailles d'or, la Norvège 4, l'Irlande 4, le Brésil 3, l'Iran 3, l'Ukraine 3, la Roumanie 3, la Géorgie 3 médailles d'or, Belgique, Bulgarie, Serbie, République tchèque avec 3. Avec 2 médailles d'or, on a le Danemark, l'Azerbaïdjan, la Croatie, Cuba, le Bahreïn, la Slovénie, Taïwan, l'Autriche, Hong Kong, Philippines, l'Algérie et l'Indonésie. Puis avec une médaille d'or, on en a un paquet, on va leur faire honneur, on va les nommer. Israël, la Pologne, Kazakhstan, Jamaïque, Afrique du Sud, Thaïlande, Éthiopie, Suisse, Équateur, Portugal, Grèce, Argentine, Égypte, Tunisie, Botswana, Chili, Sainte-Lucia, je sais pas comment on dit ça en français, là, Sainte-Lucie, l'Ouganda, République Dominicaine, Guatemala, Maroc, Dominica et le Pakistan avec une médaille d'or. Puis il y a quelques équipes qui n'ont pas remporté de médaille d'or, notamment le Mexique, c'est quand même étonnant là, avec tous les boxeurs qu'ils ont, c'est quand même un gros pays, pas une seule médaille d'or pour le Mexique, pas une pour la Colombie, pas une pour l'Inde, le deuxième pays le plus populeux au monde, pas une seule médaille d'or. Qui d'autre également n'a pas de médaille d'or? Les autres, c'est pas des. Ben, pas une médaille d'or pour le Pérou. Le Qatar non plus en a pas. Singapour, la Slovaquie. Donc, sur ça, j'espère que vous avez aimé l'émission. Le résumé de la Ligue élite canadienne de basketball, un peu de Jeux Olympiques, un tout petit peu de CF Montréal, mais on a parlé en long et en large de notre Ligue à nous, notre Ligue de basketball qui n'est pas assez médiatisée. Et puis j'espère que vous avez aimé ce travail, cette semaine, cette émission qui vous a présenté le championnat canadien de basketball qui se déroulait du côté de l'auditorium de Verdun le week-end dernier. C'était Wissam Bensta sur les ondes de CSM et de CFAC pour Le Terrain Sportif. Je vous souhaite une excellente semaine et soyez prudents. Au revoir.